Salut Quentin, merci d'être là pour parler de ton parcours et de ton travail. Donc, juste pour contextualiser un petit peu, tu es cofondateur et directeur de l'innovation au studio Dada Animation, qui m'a
C'est ça.
contacté justement pour faire plusieurs interviews avec toi et des collègues avec qui tu travailles. Donc voilà, ça va s'étaler sur quelques mois sur la chaîne, etc., avec deux, trois interviews. Et on va discuter voilà, tout ça ensemble pour évoquer, je pense, surtout le côté ben, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais maintenant? Et le côté un peu plus technique, innovation justement de l'animation, vu qu'on est dans un moment un peu charnière, on va dire, sur ce truc-là depuis quelques années, quoi.
Vrai. C'est vrai. Bonjour, merci de ton attention et de ton intérêt pour Dada. On est ravis de pouvoir discuter avec toi sur ta belle chaîne. J'ai regardé des choses, j'avoue, je connaissais pas avant, mais c'est super intéressant ce que tu fais. C'est chouette d'apporter
Ben,
tout ça
merci.
à la communauté. Ça fait partie des nouvelles choses qu'il y a maintenant et qui sont
Ouais.
vraiment super.
Donc,
Donc, merci
justement,
à
je me
toi.
demande comment est-ce que tu as commencé justement ton parcours, on va dire, dans l'animation, parce que de ce que je comprends, c'était quelque chose de. Tu as aussi fait des choses plus techniques au départ, d'ingénierie, etc. Donc, à quel moment ça s'est passé, ce passage de je vais travailler dans l'animation spécifiquement? Est-ce que tu as voulu travailler dans d'autres domaines avant? Qu'est-ce qui s'est
Ouais,
passé là-dessus,
bonne
quoi?
question. Non, l'animation n'est pas venue dès le début. Par contre, le dessin, le graphisme a toujours été là.
Ouais.
J'ai grandi en lisant beaucoup de BD, en consommant et en dessinant par-dessus. Et hein, voilà, donc dans les années, je suis né dans les années 70, tu vois, donc. Donc c'était plutôt la BD. Il faut dire que l'animation était peut-être moins développée. On a vu, je fais partie de la génération qui a vu arriver en toutes les animés à la télé, un peu par accident, hein, des animés pas toujours
Ouais.
destinés aux enfants mais montrés aux enfants. Enfin, voilà, je fais partie de cette histoire-là. Donc j'en consommais beaucoup, mais c'est vraiment la BD qui m'a attiré vers le graphisme. Cela étant dit, j'étais pas mauvais en sciences et j'ai pu faire des études de sciences et ça rassurait les parents et tout le monde.
Ouais.
Mais quand même, donc j'ai donc fait une école d'ingénieur, mais quand même, j'ai choisi une école dans laquelle il y avait des études de design, parce que je me disais bon, il y a du graphisme, ça peut, voilà, je peux peut-être mélanger mes deux centres d'intérêt. Donc c'était à l'UTC à Compiègne où il y avait une filière de design industriel, c'est ce que j'ai fait. Alors en fait c'était quand même du design d'ingénieur, c'est-à-dire c'est dans le sens design au sens anglais, c'est-à-dire conception de produits,
Ouais.
donc beaucoup de résistance des matériaux, etc. Mais quand même quelques UV, on va dire il y avait dans les disciplines enseignées, il y avait quand même du style, ce qu'ils appelaient du style, c'est-à-dire en automobile par exemple, en design industriel.
Donc la
Le
forme,
design même,
etc.,
le
quoi.
dessin, c'est vraiment le style. Et puis la conception de projet, etc. J'ai travaillé un tout petit peu dans ce domaine-là dans un premier temps. Et par là, en fait, j'ai commencé à toucher à la 3D qui commençait à arriver. On appelait ça l'image de synthèse à l'époque, plutôt. Et c'était quand même très, très... C'était pour des spécialistes et sur des machines dédiées, très, très ultra puissantes, des super calculateurs, etc. Enfin, qui ont sans doute la puissance d'un iPhone maintenant, mais à l'époque, ça, voilà, c'était gros comme une petite maison. Et j'ai pu faire des stages entre chez Matra Datavision, etc., dans des boîtes qui faisaient de la CAO, de la
Ouais.
conception assistée par ordinateur. Donc c'est vraiment de la 3D pour l'industrie, des choses comme ça. Et même à ces occasions-là, en fait, je faisais quand même beaucoup de graphisme. Justement, comme j'avais cette formation un petit peu aussi avec un peu d'esthétique pour un ingénieur. Et puis par goût aussi, on me proposait souvent d'essayer des outils dans ces outils-là qui étaient ultra techniques, ultra précis, des outils un peu plus esthétiques pour faire de la belle image, etc.
Ouais.
Et voilà, et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai fait en fait de plus en plus de CAO et d'images de synthèse dans l'industrie, jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était un domaine que j'adorais, que j'aurais aimé commencer à faire bouger des choses. On commençait à voir des films. Dans les années 80, 90, des films plutôt d'art et essai, on va dire, de
Ouais.
recherche. Il y avait Imagina, il y avait des salons comme ça et des événements comme ça, et quelques émissions à la télé comme L'œil du cyclone, je crois, ou des choses comme ça. Je sais pas si ça te parle, mais c'était des
Bah,
émissions où
j'ai déjà vu un petit peu, c'est vrai que j'ai surtout vu le côté via Pixar, etc., avec ses courts-métrages, ses publicités et tout.
ça c'est
Mais de
déjà
ce que je
arrivé
comprends, il y
après, en
avait des
fait.
trucs, voilà, il y a eu des trucs
Bien
avant,
sûr, avant
etc.
ça, et surtout en France. En France, on était ultra. J'ai découvert plus tard, on était ultra pionnier. Je me rappelle quand j'étais ingénieur, j'ai accompagné une copine qui, elle, avait fait la même école d'ingénieur, mais devenait journaliste. Et
Ouais.
elle écrivait sur des trucs techniques. Et elle m'a dit un jour, tiens, je vais voir une boîte d'effets spéciaux qui font de l'image de synthèse. Ils s'appellent Ex Machina, ils sont à Montmartre. En fait, c'était parmi les leaders mondiaux dans le domaine. Il y avait pas que des journalistes qui venaient les voir, il y avait des gens comme John Lasseter, il paraît, etc.
Ouais.
D'une petite boîte pas connue à l'époque qui faisait du hardware qui s'appelait Pixar, mais on a appris plus tard ce que c'était. Mais ils venaient voir des entreprises comme ça, qui étaient à Montmartre. Ils étaient à côté d'une autre, qui était Thomson Digital Image, qui créait des outils qui s'appelaient Explore, moi, que j'avais utilisé en tant qu'ingénieur. Explore, en gros, c'est un peu le grand frère de Moya, enfin, c'est le grand frère
Ouais.
d'Alias. Thomson Digital Image avait été racheté par, je sais plus, non, Alias, puis ensuite Wavefront. Donc, il y a un moment, Maya, en fait, mais avant Maya, moi, j'ai travaillé d'abord sur Alias Studio, c'était créé par Alias Wavefront, enfin, ou distribué par Alias Wavefront, enfin, bref. Donc, et puis, un jour, est arrivé Maya, bon, voilà, des années plus tard. Mais voilà, et dans Maya, il y a encore des choses, des petits outils que je reconnais qui étaient déjà dans Explore de Thomson Digital Image, développés à Montmartre,
Bah c'est vrai qu'on
par des gens que
a
j'avais croisés, quoi.
la
Donc,
France a ce
voilà.
côté fou de d'avoir inventé des tonnes de trucs finalement le
Ah
que
ouais,
ce soit le
on
le
a...
cinéma en lui-même les effets spéciaux le
C'est vrai.
en animation il y a des tas de pionniers chez nous et
Tout à
puis
fait. Ouais,
plein de gens
l'animation, le
qui travaillent
cinéma.
chez nous et qui sont excellents partent ensuite justement il y a des talents français partout
Ouais, ou pas, hein, les frères Lumière sont jamais partis, parmi les grands
Oui, c'est ça, mais
créateurs
bah,
du
je parle
cinéma en
maintenant le
tant que...
côté
Oui, bien
les écoles,
sûr.
etc. Plein vont partir ailleurs. Donc il y a des
Ouais,
talents
mais pas
français dans
tant
des
que ça,
tonnes de
hein.
films. Ouais.
On n'a jamais été aussi nombreux en France, on est, je sais plus, plus de 10 000 dans le
Ah
cinéma d'animation,
oui, ouais, c'est un truc
quoi.
énorme.
Donc, en fait, je sais même pas si la proportion de gens qui partent est plus grande maintenant qu'avant. J'ai pas de...
Ça, je sais pas. Ouais.
C'est juste que les chiffres sont... Ça a explosé. Moi, je sais pas, à l'époque, quand j'ai commencé il y a 20 ans, un peu plus maintenant, on avait quelques milliers, mais peut-être pas plus de 2 000, 2 3 000. Et la 3D naissait, enfin, bref, bon, voilà, puis on... Bon bref, donc voilà, je suis passé par ça et puis il y a un moment, je me suis rendu compte que d'un, j'aurais aimé commencer à faire bouger des choses un peu comme que je voyais. Encore une fois, c'est avant presque avant Pixar, quoi, qu'on voyait dans certains films, et que c'est pas les métiers que je faisais qui allaient me faire ça. Moi, on construisait des
Ouais.
choses fixes et on faisait tourner des caméras au mieux quand on faisait bouger quelque chose, puis c'est tout, quoi. Et j'ai vu d'ailleurs, c'était pas les mêmes outils, pas les mêmes formations. Et j'ai commencé à me renseigner, puis je suis tombé sur une formation, après un parcours comme ça, une formation Gobelin, une formation continue en fait, pour des gens qui travaillaient déjà d'un an, qui était l'initiation à l'époque sur Maya, alors genre Maya 1.5, quoi. Une formation à l'animation en image de synthèse. Donc il y avait 3ds Max dans une classe, et d'ailleurs dans la promo, il y avait des gens qui ont créé Fortiche plus tard.
Ouais.
On s'est recroisés il n'y a pas longtemps, et on s'est dit, enfin, ils m'ont rappelé ça, et puis tu te rappelles, tu étais dans la classe à côté, c'était assez marrant. Et puis voilà, donc et puis voilà, après je suis sorti animateur, et c'est vrai qu'après, je pense que le côté technique, de l'approche technique qui me faisait pas peur, est revenu, et dans le fond, ce que j'aimais bien, c'était peut-être à nouveau ma formation de design industriel, c'est-à-dire de gestion de projet, de choses comme ça, d'analyse de projet. Ça m'a incité à commencer plutôt à créer des outils pour les animateurs, plutôt que d'animer moi-même.
Ouais.
Déjà parce que je m'en suis créé pour moi, et puis c'était pratique, et puis c'était le début. Les métiers s'inventaient. Donc,
C'est
maintenant, il y a un métier qui s'appelle le rigging. En fait, c'était avant juste la préparation de l'animation, préparation un peu technique pour, en fait, mettre en place tout ce que tu vas animer de la plupart du temps de la même manière. Donc tu commences à le regrouper, l'organiser, etc. Puis c'est ce qu'on appelle le setup, hein. Setup, ça veut dire préparation, en fait. En France, on a appelé ça longtemps, très longtemps, setup. Maintenant, on commence à employer le vrai terme, qui est le rigging. Mais dans le fond, c'est la prépa d'animation, etc. Et puis après, ben, on vient très vite quand les outils de script sont arrivés à créer des outils d'autorig, des outils, des interfaces, voilà, plein de choses comme ça. Et puis ça m'a fait aller, en fait, de plus en plus vers on appelle le pipeline, c'est-à-dire l'organisation
Ouais.
des outils, des développements, et puis voilà, jusqu'à une création d'entreprise, avec plein de cofondateurs il y a quelques années. Alors.
Donc c'est
Voilà.
vrai que ça
Bon,
fait
d'accord.
partie des choses que je répète assez souvent dans les interviews, c'est le côté, il y a plein de métiers qu'on soupçonne pas forcément quand on voit de l'extérieur. On pense animation tout simplement quoi. Alors qu'il y a des tonnes d'autres trucs qui ne sont pas forcément liés, ne serait-ce que au mouvement ou au dessin avec
À
tous
faire
les
bouger,
trucs
ouais, c'est
techniques.
vrai.
C'est
C'est vrai
ça.
que l'industrie a pris le nom d'un des métiers, mais je crois que dans les conventions collectives, il y en a une soixantaine ou un truc comme ça, des métiers. Comme dans le
Ouais,
cinéma,
c'est.
hein, il y a du maquilleur
C'est ça, mais
double
quand on ne sait pas, on a du
cascade.
mal à se projeter sur
Bien
je
sûr.
pourrais travailler dedans parce que je dessine pas ou des choses comme ça, quoi.
Ouais,
Alors qu'en fait, tout est
tout
faisable.
à fait. Il y a des ingénieurs, des codeurs. Bon, le fait est que je dessinais, mais en fait, là, dans mon boulot de tous les jours, le dessin me sert pas beaucoup, si ce n'est à comprendre, à analyser, à partager des idées, mais c'est pas, voilà. Quand je vois les dessinateurs qui sont payés pour être dessinés, avec qui je travaille,
Oui.
je me compare pas.
Donc justement, c'est quoi ton rôle dans Dada Animation? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, on va dire, c'est quoi ton but principal?
Eh bien, Dada Animation, on l'a créé il y a presque 4 ans maintenant, en fait, avec une demi-douzaine de collègues avec qui on avait travaillé, tous ensemble, on avait déjà travaillé pendant presque une dizaine d'années pour certains, voire plus pour d'autres. Il y en a que je connais depuis très longtemps, depuis quasiment le début. Avant, on peut dire qu'on était, ouais, tous les fondateurs, on était chez Studio 100 Animation. Voilà, qui appartenait à un groupe belge, qui était une société un studio d'animation qui faisait plutôt des produits, des projets pour genre des séries pour des enfants, avec des adaptations de marques qu'ils avaient, d'IP comme on dit, de IP. C'est des marques en fait, des univers dont ils avaient les droits, qui étaient Maya l'abeille, Heidi, Vic le Viking, etc. En fait, et c'était un groupe qui avait plus d'une dizaine, je crois, de parcs d'attractions, etc. C'est leur cœur de métier d'ailleurs. Et pour eux, l'animation, c'était vraiment de quoi vendre la marque et de faire venir les gens dans les parcs. Voilà, donc on a travaillé dans ce domaine-là, tous, avec 15 gens, dont un réalisateur, des producteurs, des directeurs de production, etc. Et des gens plus administratifs, des développeurs aussi, on s'est tous appréciés. Alors le groupe, avec un sens du timing particulier, a décidé de focaliser, il semblerait, sur les parcs d'attractions et de fermer la branche d'animation en France, donc notre société en fait, juste avant le Covid, donc à un moment où en fait l'animation explosait parce que
Et
avec les
qu'il n'y avait plus de quoi
confinements,
aller dans les parcs. Ouais.
voilà, les gens ne pouvaient plus aller au parc, et en plus les parcs ont fermé. Enfin bref, et puis en plus, oui, l'animation explosait à ce moment-là parce que les gens étaient bloqués chez eux, avides de contenu, et les tournages n'étaient pas possibles non plus. Donc en fait,
Oui, c'est vrai
l'animation,
que j'ai
quand on
jamais
s'adapte.
pensé à ça, le fait que ça a dû jouer aussi sur le fait que le cinéma
Ah ouais.
live pouvait pas se tourner, quoi.
Tout à fait. Ouais, pendant moins 2 ans là, c'était dur de s'organiser pour certains. Mais l'animation c'était plus facile parce que c'est un boulot de surtout animation, on va dire numérique et 3D parce que c'est un travail de bureau en fait et donc tu peux télétravailler, etc. Alors ça s'est pas fait simplement mais ça s'est fait, c'était beaucoup plus facile quand même que télétravailler sur un plateau de tournage, voilà. Et donc on a décidé nous, puis alors, il y avait une autre chose, c'est qu'en fait chez cette société où on était avant, on était en train de faire un virage technologique, on commençait à s'intéresser, alors c'était plutôt dans le cadre dans ce qu'on a appelé un labo digital, c'était plus de la recherche et puis recherche appliquée, on va dire, recherche de procédés, de nouveaux procédés, et on commençait à intégrer des moteurs de jeu, on commençait à intégrer de la VR en tant qu'outil dans notre manière de travailler. Puis c'était extrêmement plaisant et ça apportait de très chouettes résultats, au point qu'on était demandé d'ailleurs, enfin, on faisait partie de ces sociétés pionnières en fait. On s'en rendait compte quand on était au SIGGRAPH en 2019. Moi, je me rappelle, j'avais été invité à un panel où je représentais vraiment, il y avait une autre société de Montréal, on représentait les petites boîtes, hein, les boutiques comme ils appellent ça. S'intéresse à ça, à côté des DreamWorks, des Framestore, de Pixar, etc., Epic et Unity. Et donc, c'était assez impressionnant. Mais voilà, donc on a décidé, nous, de continuer à explorer ces nouvelles façons de faire qui étaient super intéressantes et revivifiantes, en fait, parce que tous les fondateurs, là, comme moi, comme on a pu le deviner par mon intro, ça faisait longtemps qu'on était dans le milieu, ça fait 20-25 ans, et on a vu, alors c'était super chouette, enfin super créatif au début, parce qu'on inventait des métiers, on inventait des façons de faire, etc. Et puis on peut dire quand même, dans les dernières 15 années, il y a des standards qui sont installés, des problématiques qui restent toujours les mêmes. Bien sûr, on optimise toujours des choses, on pousse, les machines évoluent, les algorithmes évoluent, mais en fait, c'est devenu un métier quand même assez industriel. Et là, avec ces nouveaux arrivants technologiques, ces nouvelles manières de faire, ça rebat les cartes un peu et ça devient plus sympa plus créatif dans les méthodes, au moins. Il faut réinventer des méthodes et sans doute des métiers, etc., quoi. Donc, mon boulot, moi, je suis venu avec la casquette de directeur de l'innovation. C'est mon intitulé, on va dire, mais en gros, je fais beaucoup de veille technique, de veille des talents aussi, parce que ça va ensemble. Donc, je travaille beaucoup avec les écoles pour voir sur des trucs qui émergent, des nouveaux procédés qui émergent, comment on peut former qui ou quoi, et même des institutions, parce que les écoles elles-mêmes, elles ont besoin de certifications qui sont faites par les institutions, etc. Donc, enfin, c'est tout un cercle assez vertueux qu'il y a en France, qui est assez bien organisé. Et donc, je suis beaucoup dans des discussions comme ça, un peu de la politique, mais c'est vraiment, c'est appliqué, c'est appliqué au bien-être, enfin, à apporter des bienfaits à notre industrie, sur les nouvelles techno, donc l'arrivée des moteurs de jeu, des choses comme ça. Maintenant, l'IA, je viens d'écrire juste hier, un article pour le newsletter de la CST, qui est une sorte d'institution technique du cinéma, sur l'IA dans les studios, etc. Donc, voilà. Donc, je fais beaucoup de veille. Et puis, ben, en interne, on essaye, quand on voit que des technos sont prometteuses, on les teste. Et puis, on essaie de les appliquer, du moins, à des projets quand ça colle, en fait. Donc, on fait des projets quasiment tous les projets sont de manière assez différente chez nous. Ça dépend, mais on essaie de mettre les bonnes technos en face, puis de développer les choses qu'il faut.
Bah c'est ce que je me demande justement quand tu dis expérimenter dans ce laboratoire, etc., de technologie. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est, tiens, on peut coller des textures générées sur de la 2D? Est-ce qu'on a un projet qui colle à ça? Ou est-ce que c'est, on veut faire tel projet et on va imaginer comment le faire de la meilleure façon possible? Dans quel sens ça se passe? J'imagine que c'est pas
Ouais,
tout le temps pareil.
honnêtement, c'est plus le réalisme prime et le manque de temps aussi. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller sur des choses dont on sait qu'elles seront utilisables assez vite. Alors, ça peut être une techno, ou alors on peut explorer quand l'exploration ne va pas durer longtemps, on peut explorer une sorte de micro-technique, micro-procédé, pour voir à quel point c'est prometteur, stable, fiable, etc. Et puis, mais sinon, c'est plutôt quand de nouveaux projets arrivent, etc. On a une organisation très horizontale chez nous. Au même niveau, il y a vraiment l'administratif, les producteurs, réalisateurs, directrices d'écriture, c'est une des fondatrices aussi, etc. Donc, chacun vient avec des contraintes et des envies, et des angles vraiment très différents. Donc, en fait, on est assez au courant de qu'est-ce qui serait pertinent d'explorer parce qu'on a vraiment le choix des techniques à explorer. Moi, la liste est très longue. Et puis, comme tu sais, ça évolue très vite, surtout avec l'IA en ce moment. C'est un peu fou. C'est même un problème. On est noyé d'infos et de nouvelles choses. Donc, c'est plutôt, concrètement, est-ce qu'on n'a pas un truc où ça sera applicable suite, etc. Est-ce qu'on peut... Donc, ça, c'est plutôt comme ça que ça se passe, en fait. Et pour nos projets à nous, parce qu'on est producteur, donc on crée nos propres projets, tout comme pour les projets des clients, parce qu'on est aussi prestataire de services, on va dire.
Ouais, ça je crois que c'est un peu récurrent dans les studios d'avoir les projets internes et des choses extérieures qui parfois aussi sont peut-être plus, je sais pas comment dire, c'est des gens qui ont déjà de quoi faire le projet et qui viennent pour le produire, donc il y a peut-être un côté un peu plus facile à faire alors que d'autres projets sont peut-être plus difficiles à monter,
Oui, c'est sûr,
j'imagine.
quand on monte et qu'on invente un projet, une IP, donc c'est faut aller la développer, la vendre, etc. Donc, quand un producteur vient nous voir, c'est parce qu'il a déjà trouvé les financements pour fabriquer et qu'il cherche un fabricant. Alors, quelqu'un vient nous voir pour ces étapes pré-fabrication finale. Hein, parce qu'il y a dans le cinéma, il y a beaucoup de et en France, on est très aidé. Enfin, il y a toute une structure, et comment dire, des processus de développement qui sont aidés par les institutions. Donc, on peut aller demander au CNC de l'aide au développement, d'ailleurs, même de l'aide à l'écriture, de l'aide au développement, de l'aide au pilote, etc. Et en fait, c'est des effets de cliquet à chaque fois. Chaque fois, faut montrer patte blanche et montrer que c'est assez pertinent, qu'on peut le faire, etc. Et il y a des commissions. Puis après, il y a même des aides techniques, des aides sur certaines choses. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'un producteur, c'est son travail de monter, d'avancer dans cette jungle-là. Et voilà. Et donc, nous, quand on est prestataire de service, on peut aider à fabriquer pour, quelquefois, du développement, fabriquer pour du pilote, fabriquer pour. Voilà. Là, en ce moment, on vient de finir un pilote pour une série, d'un producteur. Voilà. Qui s'appelle Mon Boost Animation. C'est un truc de course de bateau sur la mer, un peu futuriste, avec un look un peu manga. Mais là, on a aidé à beaucoup de choses, dont l'écriture, mais en tant que prestataire.
Et
Par
comment ça se
exemple,
passe alors
l'écriture.
le studio en lui-même? Parce que tu dis qu'il y a une base de personnes qui travaillent dedans. Après, des gens de l'extérieur viennent pour produire justement les choses. Est-ce qu'il y a une équipe fixe?
Oui, bien sûr, oui, bah, les fondateurs sont fixes, on était
Oui.
une demi-douzaine, ce qui est beaucoup, beaucoup de cofondateurs, mais ça tient. Puis bon, on se connaissait depuis longtemps, faut dire. Et puis surtout, on pratique tous un métier complètement complémentaire des autres, il n'y a pas de doublon et on est tous nécessaires. De toute façon, il aura fallu ces postes, voilà. Et souvent, ce sont des postes un peu permanents. Et puis, bien sûr, comme tout studio, après, il y a quelques autres permanents, des gens surtout dans des postes transversaux qui touchent de toute façon tous les projets, donc typiquement les pipelines, PD, enfin les développeurs, etc., qui s'occupent un peu du moteur technologique qu'il y a derrière le studio. Des gens à la communication, des gens comme ça, mais sinon c'est bah, comme tous les studios en France, et c'est pour ça qu'a été créé le statut ou ce régime, je sais jamais quel est le bon terme, mais
Oui.
il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, parce que les projets, bah, comme je viens de l'expliquer, on peut comprendre, hein, quoi. On sait jamais s'ils vont se faire, on avance par petits bouts, développement par petits bouts aussi, quelquefois plusieurs fois, un ou des pilotes. Et puis même quand quelque chose démarre, un long métrage ou une série, ou d'autres projets, parce qu'on fait des expériences VR aussi, on fait d'autres choses. Il y a plein d'étapes qui ne nécessitent pas toujours tout le monde. Il y a des étapes vraiment
Oui,
de
voilà.
design, il y a des étapes de storyboard, il y a des étapes d'écriture, des étapes après de fabrication de plein plein de choses. Et ça demande des équipes présentes pendant de quelques jours à quelques mois. Et c'est pour ça que les gens ils alternent, et voire même quelquefois, il y a moins de volume à pratiquer, donc les équipes décroissent ou elles commencent à être en pointillés, c'est-à-dire qu'elles vont venir quelques jours par semaine. Hein, voilà. Et donc, l'intermittent, c'est super pratique pour ça, parce que ces gens-là peuvent faire quelques autres jours dans une autre société.
Bah c'est
Voilà,
ça, et ça fait que tout le
c'est
monde
pour
tourne
ça.
aussi de studio en
Tout à fait.
studio, donc ça permet de faire plein de productions différentes, etc. Quand on est soi-même justement à sauter d'une production à l'autre.
C'est ça.
Et pour prendre un exemple un peu précis, c'est ce pourquoi on m'avait contacté au départ, le documentaire Ils étaient des millions, en m'expliquant un petit peu le principe. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ça, de qu'est-ce que c'est que ce projet, et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de comment on fait ce rendu visuel particulier,
Ouais,
quoi.
tout à fait. Ben oui, merci d'en parler. C'est effectivement, ben, c'était un peu l'actualité. C'était l'actualité d'il y a quelques mois. Et ça va. C'est en écriture. Justement, on vient de finir un pilote. On a fini il y a quelques mois un pilote, enfin quelques semaines. Avant ça, l'année d'avant, on avait plutôt fait du développement. On avait plutôt fait des recherches technologiques. Alors pour le coup, là, c'est typiquement le cas d'un producteur extérieur, en l'occurrence Sepia, qui est une société de production de documentaires. Qui sont à Strasbourg, qui font beaucoup beaucoup de documentaires dans plein de genres, qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient un projet assez ambitieux. Ça fait partie des très gros documentaires chaque année. On connaît pas forcément ce milieu. Enfin, moi-même je découvre, mais il y a des gros projets, tout comme il y a des gros films en France ou des grosses séries. Puis il y en a des plus petites, des plus humbles, etc. Ça fait partie des gros. C'est une série documentaire de 3 épisodes d'une heure en gros. Qui a été signé par Arte au final, et Arte France-Allemagne en plus, donc c'est aussi des accords, il y a différents niveaux de financement, voilà. Et c'est sur l'émigration européenne, en gros du 17e au 19e, voire début 20e, donc toute cette période où en fait en Europe, bah, c'est là qu'il y avait les pires guerres et en plus des famines, parce qu'il y avait des problèmes climatiques, entre autres, et des guerres de religion. Donc les Européens, surtout de l'Est, ils partaient en masse et ils ont créé les premiers camps de migrants connus de l'histoire, entre autres en Angleterre, etc. Il y a plein d'Allemands mourant de faim, protestants, qui arrivaient en Angleterre en passant par la France, et qui partaient soit à l'Est, soit à l'Ouest, aux États-Unis. Ils disaient pas les États-Unis à l'époque, hein. Ils disaient on va en Géorgie, on va en Pennsylvanie, et la forêt de Monsieur Penn. Et d'ailleurs, il y a un temps, il semblerait à ce moment-là, où les États-Unis parlaient surtout allemand à cause
Ah oui.
de ces immigrations-là. Et donc, bon, voilà, ça, en suivant en fait l'histoire qui est connue de certaines familles particulièrement, parce qu'il y en a qui ont laissé des journaux sur plusieurs siècles. En fait, ce documentaire parle de tout ça. Et en fait, comme bien sûr, il y a quelques siècles, c'était compliqué de voir des images, des photos, et même des tableaux. Enfin, les gens, voilà, ils voyageaient pas pour se faire des carnets de voyage.
Ouais.
Ils avaient d'autres choses en tête. Donc, il y a quelques illustrations, mais en fait, c'est compliqué. Pour les périodes plus récentes, c'est plus facile de trouver des choses. Mais il y avait un gros besoin d'illustrer. Et en fait, le studio de production a décidé que ça serait par l'animation. Et donc, ils sont venus nous voir pour ça. Et en fait, ils ont plein de problématiques différentes. En analysant les scénarios, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques d'animation de cartes, de cartographie, donc assez grand volume. Voilà, qui peuvent être faits en 3D, en 2D avec des moyens classiques, on va dire. Ça, on commence à faire. Il y a même des spécialistes de ça. Donc, on a intégré dans le cadre de nos productions. Il y a aussi de l'immersion dans des œuvres d'époque, des tableaux, des gravures, etc. Donc, c'est pareil, c'est des techniques de découpage et de remise en profondeur, bon, assez classiques. Le découpage peut être aidé par de l'IA maintenant. Il y a de quoi re-remplir les trous, etc. assez facilement par de l'IA. Donc, c'est là où, voilà, c'est là typiquement où, à chaque défi, déjà, on analyse les défis qu'il y a, et puis en face, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une techno un peu nouvelle? Donc, c'est là qu'on a apporté des choses. Et puis, le plus compliqué, c'était ce qui est de la reconstitution par animation de scène, en fait, parce que, voilà, donc, des gens, on va voir les gens qui quittent leur lieu, qui arrivent dans les grands ports de Bâle ou en Angleterre ou aux États-Unis, et reconstruire tout ça, et avec quand même une économie de moyens du documentaire qui est pas très riche. Faut être très honnête, j'ai fait cet été, moi, de coup sur coup, parce qu'à un jour d'intervalle, j'ai le festival d'Annecy, donc plus gros festival du monde d'animation, qui a battu des records d'audience et
Il y a du monde.
d'entrée, d'accréditation. 16 000 personnes, plus 6 000-7 000 d'accrédités professionnels. Enfin, c'est hallucinant, des milliers de films, bref. Et puis d'ailleurs, 3 jours après, enfin, même 2 jours après, j'étais à La Rochelle pour le Sunny Side of the Dog, qui est le gros festival du documentaire. Et là, j'ai trouvé ça très calme, très tranquille. Et c'est avec quasiment les mêmes acteurs. Le CNC est là, la BBC, TF1, enfin, etc. Ils sont tous là, plus tous les producteurs de documentaires, mais c'est quand même beaucoup. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de moyens. Et voilà. Et donc, il fallait être d'autant plus malin en animation pour rentrer dans ça. Et donc, en fait, les technos qu'on a proposées, c'est de reconstruire, quand c'était pertinent en 3D, déjà d'appliquer un style, parce qu'on s'est dit, tiens, à chaque époque, on va utiliser des styles différents, des graphiques différents. Puis bon, voilà, fallait rester réaliste. Et en plus, un, c'était confusant pour le public. Ça allait même complexifier la production. Et en plus, ouais, et rendre les choses plus chères voilà, un gain pas forcément évident. Donc on est parti sur un style. Donc on a, c'est comme si c'était une, c'était dirigé par deux personnes, en fait. Il y a vraiment la direction. Il y a un réalisateur qui est vraiment. Il travaille avec un réalisateur de documentaires classiques, et il y a une sorte de co-réalisation pour toutes les parties animées chez nous, de gens qui savent faire de l'animation, qui savent anticiper les problèmes d'animation, etc.,
Oui, c'est
et
ça,
qui
parce que ça reste
co-écrivent
deux
même.
trucs différents, quoi. Il y a
Voilà,
beaucoup de films
ouais.
comme ça où il y a une personne qui assiste, on va dire. Je crois que c'est le cas sur les films de Del Toro où il y a quelqu'un qui est plus animation qui assiste
Voilà,
de ce côté-là, parce
oui, lui
que
vient
quand on n'est
du.
pas habitué, c'est pas du tout les mêmes contraintes.
Ah bah
Dans une
non,
autre
pas du
interview, il
tout.
y avait quelqu'un, un animateur, qui parlait de Alfonso Cuarón sur Gravity, qui est pas habitué à l'animation, et qu'il avait des demandes justement un petit peu de bah là, on va refaire ce truc, et on lui disait bah en fait, ça marche pas exactement comme ça,
En fait,
etc., quoi.
voilà,
Donc il y a
les
cette
rushs, c'est qui arrive.
problématique-là, ouais.
Ah, ouais, bien sûr.
C'est ça.
Donc là, donc ça, c'était une des problématiques à prendre en compte. C'est-à-dire que, et c'est encore pire en documentaire, ils peuvent pas tout écrire en amont. Ils vont écrire
Bah ouais.
un fil d'Ariane, et puis après, ils vont interviewer les historiens, les choses comme ça. Là, ils sont en tournage, d'ailleurs, ils sont baladés dans le monde entier, interviewer des gens partout, et quelquefois, ils savent, hein, parce qu'ils ont lu, ils sont préparés, etc. L'historien va dire en gros ceci, cela, et ça va aider à la construction du documentaire, mais peut-être qu'il va dire
Il y a
autre
des
chose,
surprises,
en
quoi.
plus de vachement intéressant, et qu'il va falloir, bon, qu'ils vont
Donc ça
filmer des
va
choses.
mêler
Hein.
les deux. Alors c'est ça, c'est pas 3 heures d'animation, c'est
Non,
entremêlé
non, voilà.
d'interviews.
Donc la moitié est animée d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la cartographie, ça peut être animé, ça peut être aussi des documents, quand il commence à y en avoir, qui reprennent vie grâce à de l'IA, donc par des procédés. Alors maintenant, il y a 3 ans, franchement, quand on s'est attaqué au truc, c'était des technos un peu cachés et très pointus. Maintenant, on peut faire presque à ça sur son téléphone, donner vie à des photos, etc. Donc il y aura ça un petit peu. Bon, le réalisateur de choisir si c'est pertinent ou pas de faire tout bouger, etc. Et puis pour les reconstitutions, bah ça reste vraiment le plus gros challenge parce que c'est toujours ce qui est le plus coûteux. Hein, c'est vraiment pour construire des scènes animées. On est parti sur un style déjà qui est très 2D, qui est très BD historique, donc un ton un peu sépia. Alors, drôle parce que la société de production s'appelle Sépia, mais c'est un peu ça, un peu ocre, comme ça qui couvre un peu tout le artistiquement, on va dire toutes ces périodes-là. Et puis pour ce qui est de la fabrication de l'animation même, hein, on est parti dans l'idée de s'il y a besoin de reconstituer des gros volumes d'architecture, etc. Il y a de manière très flexible pour pouvoir recadrer dedans facilement parce que on prépare des plans, mais en fait on voit arriver des rushs et le premier montage, les montages en documentaire, ça arrête pas de bouger, quoi. Ils peuvent pas vraiment tout anticiper.
Bah
C'est
oui, et puis
vraiment
il y
très.
a des tonnes, il y a des heures et des heures et des heures
Bah ouais,
de
c'est
rush
ça.
et tout, quoi.
Donc, en fait, il fallait s'adapter à ça. Donc, on est parti, et comme on utilise beaucoup des moteurs de jeu, on est parti sur des reconstitutions faites dans Unreal Engine, avec en plus tout l'écosystème des assets d'Unreal Engine. Il y en a beaucoup qui sont assez réalistes, et une image qui est assez réaliste de base. Et justement, nous, on voulait pas une image réaliste, on voulait une image très 2D. Et en fait, j'ai proposé qu'on serve de cette base-là pour utiliser des procédés de rotoscopie, certes, parce qu'en fait, en gros, ça va revenir à ça, pour traduire et pour faire du transfert de style. Et on a commencé à utiliser une IA de transfert de style, qui est techniquement une IA de warping, c'est-à-dire qui colle à un film et il va coller des images clés et va essayer de faire
D'interpoler
perdurer ces
entre
images
eux, ouais.
clés sur le film, qui s'appelle EBSynth, ou EBSynth. Et voilà, donc on est parti sur ce procédé-là pour ces plans-là. Et voilà, donc ça a donné des recherches lors d'une phase de développement, une application dans un pilote. On a commencé à mesurer aussi les pour et les contre, hein, les limitations de ces procédés-là, parce qu'il y a des choses qu'il faut quand même faire classiquement ou différemment. Et puis là, on attend l'écriture finale, parce que il y a un nouvel réalisateur, il y a une nouvelle réécriture, puis on va attendre la fin du tournage pour combler les trous et commencer à réécrire même les scènes animées, parce qu'on sait déjà ce qu'on voulait faire, mais va falloir qu'on regarde maintenant. De chaque détail va compter. Mais voilà, donc là, en fait, la prod en septembre repart, et pour de la fabrication va falloir faire une phase de pré-production, c'est-à-dire vraiment de mise à plat de toutes les problématiques, et on devrait recommencer à fabriquer de l'image en janvier 2024. Et
Ok.
pour pas mal de temps, parce que c'est pour il y a 1 heure et demie de 1 heure et demie d'animation, c'est
Bah
l'équivalent
c'est
d'un
ouais,
long
c'est
métrage,
long
quoi.
quoi. Voilà.
Ouais.
Donc l'animation en elle-même est faite aussi en 3D ou alors c'est des gens et ensuite
Alors
quelque
oui,
chose
non, c'est
dessus, c'est
vrai,
filmé.
je l'ai pas dit. Ouais, la reconstitution des lieux, tout ça ça peut passer par du moteur de jeu, mais pas toujours forcément. On verra justement. Il y a une phase qui va en bénéficier, mais pas forcément tout. Et puis l'animation même, oui, c'est de l'animation plutôt réaliste. On avait testé déjà à l'époque de la mocap, on va dire de la mocap très accessible. Maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui sont de mieux en mieux de mocap par vidéo. On se filme et puis ça génère de la mocap et voilà. Donc on risque de continuer à en utiliser, mais souvent pour des petits mouvements simples, etc. On avait animé effectivement en 3D. Là, on parle vraiment d'animation 3D dans Maya à l'époque, en keyframe, c'est-à-dire qu'on rig nous-mêmes, on prépare nos personnages, on anime en 3D. Et puis après, on se sert de ces technos-là de transfert de style pour faire un rendu non réaliste dirigé par des dessinateurs en fait qui appliquent leur style.
Oui, donc y a des recherches, on va dire, en 2D, etc., des peintures et tout, pour dire ça va ressembler à ça, et ensuite on va
Ouais,
essayer de le
tout à fait.
transposer d'une façon ou d'une autre, quoi.
Voilà, comme tout film d'animation, en fait. Il y a vraiment une DA. Et puis, il y aura du re-storyboard une fois on a déjà fait en partie, mais on attend vraiment encore une fois le tournage
Ouais.
final et la réécriture finale. On va re-storyboarder chaque plan. Et le storyboard, on sait, enfin, même le storyboard animé, c'est-à-dire qu'on filme le storyboard, c'est ce qu'on appelle l'animatique. Ça sert vraiment de base à rechiffrer tout, à organiser tout, quoi.
Oui, c'est ça, parce que c'est enfin, des documentaires animés, y en a quand même un petit peu, parce que ça permet de faire des choses qu'on peut pas, comme
Ouais,
tu disais, on ne peut pas les
ouais.
reconstituer facilement, etc. Mais c'est quand même un autre défi et tout. Et puis le côté entremêlé des interviews, de l'animation, enfin, il y a tout un truc de rythme aussi
Ouais,
à
bien sûr.
définir. Enfin, c'est un
Ouais.
truc quand même assez énorme quoi, pour 3 heures comme ça
Ouais.
à faire. Et donc, ça, c'est sur plusieurs. Enfin, tu dis que ce sera en 2024 que ça va être surtout produit.
La
Donc c'est pour une
production,
sortie
ouais, sur
2025
même deux
finalement.
ans,
Ouais.
Je pense on va être dessus de petites années, quoi, comme un long métrage. J'ai pas les dates finales, je vais pas dire de bêtises,
Ouais,
mais
pas de
il doit y
souci.
avoir des dates de diffusion. Mais je pense, ouais, je pense que tout 2024, on sera dessus, je pense. Je crois que le tournage se fait très vite dans ce cas-là, mais voilà, et tous les. Ouais. Donc je pense quasiment tout 2024, on devrait être dessus.
Donc tu parlais aussi du logiciel utilisé qui permet justement de prendre. Enfin moi les vidéos que j'avais vues là-dessus, c'était il y a quelques années peut-être, je sais plus, EBS-Inc là, qui permet de justement avoir quelqu'un qui est filmé, et ensuite par-dessus on va mettre un personnage peint qui va ensuite bouger, etc. Ça a eu un gros boost, en tout cas public, ces dernières années. Donc ça fait que vous pouvez pas vous dire, ah bon, on avait prévu ça comme ça, on va le faire comme ça, parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent entre-temps. Donc il y a forcément ce côté adaptatif en fait. Comment ça se passe
Ah ouais, ça
là-dessus?
c'est compliqué parce que c'est là où ce chouette environnement j'ai envie de dire financier, technique qu'il y a en France qui permet de monter des projets et après de les faire. Et ça se fait, ça met des années quand même de monter des choses étape par étape. Mais pendant ces années-là, les technos changent. Ouais. Donc quelquefois, ce qu'on a prévu, les budgets, tout. Après, bon, donc les subventions qu'on reçoit, après, il y a vraiment un suivi des subventions. Faut dire, ben voilà, on
Oui,
a
il faut
dépensé ci,
justifier.
comme ça, comme ça, comme ça. Bon, après, le CNC est pas idiot, il sait très bien ce qui se passe et pourquoi. Et tant qu'on explique les choses, si on a changé on a changé, c'est normal de, voilà, on peut l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge en soi. Il y a effectivement plein d'autres manières maintenant de transférer du style. Il y a plein d'IA qui sont arrivées. Il y a, entre-temps, était arrivé dans Stable Diffusion et toute la cohorte
Ouais.
d'outils construits autour, Midjourney et compagnie. Et on peut se demander si ouais, ça serait pas intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces outils-là, moi, je suis ça beaucoup. C'est ça qu'on me demande d'ailleurs de rapporter là dans certaines newsletters ou autres, ou dans des panels. Hein. Justement, à Sunny Side of the Dock et au MIFA, j'étais dans des tables rondes où on a parlé de ça. Les problématiques, en fait, elles sont quand même que ces outils-là, tu n'es pas sans savoir. Je pense. Ton audience n'est pas sans savoir qu'il pose plein de problèmes éthiques et plein de problèmes légaux, du coup, qui est en fait
Bah c'est
les.
ça, des trucs qui sont juste inconcevables il y a quelques années parce qu'on n'imaginait pas, enfin, en tout cas j'imaginais pas que ce serait de l'art qui partirait vraiment d'un coup comme ça en intelligence artificielle. Je pensais que c'était des choses moins, je sais pas, ça m'avait l'air complexe, tu vois, de générer des images, etc.
Ouais.
Et c'est ce qui est arrivé d'un coup et ça, je pense que c'est un peu, tout le monde
À
était un peu
fait.
étonné de
Donc,
ça, quoi.
quelques mois, il y a une amélioration de la
Bah c'est
qualité
ça,
des
et puis
œuvres.
on l'entend dire, bah voilà, les mains sont comme ça, donc on détecte que c'est une IA, et puis 2 mois après, finalement, c'est terminé.
Voilà,
Donc des
tout à
trucs
fait.
comme ça, sur les voix aussi, ça pose plein de questions,
Ouais,
sur le doublage, des films,
je vois.
enfin, des trucs...
Puis tout ce qui est texte, hein, ce qui est texte, les traducteurs. Je pense que les premiers qui prennent cher en ce moment, c'est les traducteurs, les voix. Et puis ça va arriver dans tout le domaine. De toute façon, moi j'ai pas mal suivi ça, les rapports d'études. Hein, il y a beaucoup de grosses sociétés, de think tanks, etc., qui ont étudié l'impact sur les métiers. Alors, c'est pas toujours facile à faire parce que on sait pas de quoi demain sera fait, mais clairement, en fait, c'est plutôt les métiers du texte dans un premier temps qui sont bouleversés. Donc, les auteurs, les analystes de tout type, hein, législateurs, les administratifs, etc. Et puis, les textes techniques, c'est-à-dire le code. Le code, il s'écrit tout seul, etc. Enfin, il peut s'écrire tout seul de plus en plus. Après, il est toujours à la hauteur de la qualité de la personne qui dirige
Ah, c'est ça, il faut quand
l'écriture
même
même.
un
Voilà.
esprit derrière qui fait
Ouais,
quelque
ouais.
chose pour diriger, quoi.
Mais quand même, c'est assez impressionnant. Ça va quand même très vite. Et ça change beaucoup de choses. Nous, on a vu, tu fais partie d'une génération qui a vu arriver, comme je disais au début, la 3D, même le numérique. Hein, je connais des gens qui ont vu arriver Photoshop. C'était coloriste et c'était un bouleversement. Ça a fermé des équipes entières de coloristes parce qu'il y avait Photoshop. Et bon, certains s'y sont mis, puis d'autres ne l'ont pas fait, etc. Et pareil, le storyboard numérique est arrivé. Ça a été un gros bouleversement et c'est la base comme tout film, enfin, tout film d'animation du moins. Et puis la 3D est arrivée. Enfin bref, donc on a
Ouais,
vu
c'est
plein
ça.
plein de bouleversements.
Mais là, je pense que c'est l'échelle qui est différente
Là,
aussi.
l'échelle
Le
est folle,
fait que
ouais.
maintenant, une petite boîte qui se dit, on prend un graphiste ou on le fait générer, on l'a pas. Enfin, le choix sera quelque part vite fait, quoi. Donc, il y a des trucs comme ça qui font qu'il y a plein de
Ouais.
petites choses qui peuvent être
Oui, c'est sûr. Pour
supprimées. Après,
l'image,
moi,
en fait.
je suis un peu mitigé là-dessus, parce que forcément,
Ouais.
moi, je trouve ça trop bien en termes de
Bien
technologie. Forcément, il y a le côté
sûr.
excitation de incroyable et
Ouais.
tout. Et je sais qu'il y a des choses qui permettent, je crois, de mettre ses propres images à soi pour générer d'autres
Ouais.
choses. Donc il y a ce côté qui peut rester un peu clean, on va dire, au niveau des
Bah oui, mais
images
non,
récupérées,
parce qu'en
quoi.
fait, alors pour ce qui est pour faire revenir là-dessus sur le côté éthique et légal, déjà légalement, c'est les gros outils, hein, parce qu'en gros, ils viennent de Microsoft maintenant, parce qu'ils sont derrière OpenAI. Bon, c'est plutôt pour le code, hein, tous les GPT quelque chose, parce que DALL-E, à ma connaissance, pas très utilisé en production. Enfin, c'est le plus limité peut-être de tous les outils de génération d'images. Mais par contre, Stable Diffusion et son rejeton Midjourney, c'est ils sont voilà, ils sont derrière beaucoup beaucoup d'autres trucs. Et eux ont été quand même construits sur des bases de données en fait qui posent problème éthiquement déjà parce que ces bases de données qui étaient complètement open source. Alors on peut se dire bah ouais, mais Stable Diffusion reste open source. Et oui, mais si on en fait c'était pour la recherche, et ça peut servir aux chercheurs. Je connais plein de chercheurs qui l'utilisent, c'est sûr. Même des briques de Stable Diffusion, parce que c'est un logiciel brillant. Mais quand on commence à faire du commerce avec ça, on est en train de taper sur des trucs, voilà. Donc, et même quand on y injecte ses propres images pour créer ses propres modèles, c'est checkpoint, comme on dit, etc. Dans le fond, tu le fais quand même avec un moteur qui a été entraîné sur des images, voilà.
Oui, donc il n'aurait pas cette connaissance-là sans avoir volé des millions de
Exactement.
trucs, quoi. Ouais.
C'est quand même basé, voilà. Donc ça reste très problématique. C'est pour ça qu'il y a plein de procès et plein de voilà et que la partie n'est pas jouée en fait. On ne sait pas si ces outils vont rester légaux, etc. Donc ça devient c'est très très compliqué pour une société de se dire tiens on va baser un workflow là-dessus. Donc et c'est ce que je dis un peu dans la newsletter, mais de ce que j'ai vu cette année, ces derniers mois. En gros, il y a un petit peu un spectre de la prudence. Il y a les purs chercheurs ou artistes qui, eux, utilisent ouvertement le truc pour... c'est les images qu'on voit en général, hein, pour tester à quoi ça peut servir. Et puis voilà, ils ont pas vraiment beaucoup d'argent. Ils se font connaître, par contre, mais ils testent les choses. Ils font avancer les schmilblicks, c'est très bien. À l'autre bout, il y a vraiment les entreprises qui s'interdisent entièrement d'y toucher, de peur de elles-mêmes se prendre un procès. Il y a une très connue qui est Epic Games. Il me semble avoir entendu ils interdisaient même pour si tu veux faire du moodboard ou des recherches de design de base et après construire par-dessus, ils interdisent ça aussi. Et je crois même qu'ils demandent à prouver qu'on l'utilise pas, donc montrer qu'on a fait des recherches nous-mêmes, etc. Je connais au MIFA, c'est-à-dire au Festival d'Annecy, il y avait la société Blue Spirit qui a vraiment pignon sur rue depuis très longtemps pour faire plein plein de séries d'animation super chouettes. Ils ont des équipes de data scientists et d'ingénieurs en interne pour faire de l'IA, mais en fait, c'est pareil, leurs avocats, l'avocat de leur groupe, leur interdisent d'utiliser des IA de graphique parce que c'est trop dangereux légalement, et puis éthiquement, c'est discutable, etc. Par contre,
Bah
ils
c'est ça,
utilisent des...
c'est...
Ouais. Donc ils utilisent des IA qui sont plus neutres en fait de traitement de texte, voilà, donc des modèles open source de Google, BERT par exemple, pour analyser. Eux-mêmes, ils y mettent là pour le coup dans tous leurs documents depuis leur création, les scripts, c'est-à-dire les scénarios, suivi enfin tout ce qu'avait donné le scénario, parce qu'on analyse un scénario, on fait un dépouillement, c'est-à-dire un casting, on fait des premiers storyboards et tout. Il donne à l'IA de quoi analyser tout ça, puis après, quand il donne un nouveau scénario, ploup, ça sort. C'est un peu
Donc c'est
l'idée.
un travail de synthèse plus que de création à ce moment-là,
Exactement. Oui,
ce qui rend
voilà.
le truc
Mais en
bien,
fait,
quoi.
c'est vraiment toutes les tâches un peu, dans le fond, on peut dire un storyboard, c'est créatif, mais dans le fond, même dans storyboard, il y a plein, plein de décision que tu prends mécaniquement. Bon, ben, ça, c'est un dialogue, donc c'est champ contre champ. Ça, c'est pas très fun. La partie créative est pas là, en fait. Enfin, c'est la partie savoir-faire, il faut savoir le faire. Mais donc, ça, c'est quand même facilement automatisable et enfin, facilement. Ça restait pas si simple que ça, mais justement, maintenant, ça le devient. Donc, en fait, c'est vrai que en même temps, des gens étaient payés pour le faire, ça remplissait leur journée et leur frigo. Et c'est vrai que
Bah, c'est
ça,
toujours ça le truc avec
c'est
une
des tâches qui
technologie
vont
qui arrive.
disparaître.
Ouais, voilà ça.
Mais c'est plutôt des tâches d'automatisation. Et ça, on voit ça partout, partout. Il y a plein de... Je sais plus, j'avais vu un article qui disait qu'il y a une époque, dans les banques, il y avait des immeubles entiers remplis de salles entières, elles-mêmes, avec plein de bureaux partout. Chaque
Ouais.
bureau, il y avait des gens qui calculaient à la main des choses. Et on peut considérer qu'ils étaient chacun une opération, avec des gens qui structuraient les opérations, etc. Et on peut dire chaque bureau, voire chaque étage, était une cellule d'un fichier Excel maintenant, en fait. Et quand les calculateurs sont arrivés... Il y a des étages qui ont disparu, et puis après des immeubles antiques qui ont disparu. Maintenant, un moindre tableur représente
Bah
des
c'est ça, en fait,
immeubles.
il y a
Voilà.
un équilibre à trouver entre à quel point c'est bien utilisé, à quel point c'est... Enfin, ces trucs-là, c'est sûr que c'est pas... C'est très... Comment dire, subtil, complexe comme truc, c'est pas... On peut être anti ou pour à 100%. Enfin, moi, je sais que je suis un peu entre deux, et pour... J'ai jamais utilisé de générateur d'image ou quoi que ce soit, mais je sais que les outils pour le texte, je trouve ça bien, parce que c'est... Voilà, structure, un sujet comme ça, puis hop, il propose des idées, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, tu le reprends, tu
Voilà.
fais ton truc... Ces trucs-là me semblent assez innocents en quelque sorte. C'est juste un truc d'organisation du
Ouais,
travail,
après,
quoi.
s'ils sont nourris de choses qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser pour être nourris, c'est le problème d'OpenAI. OpenAI a été créé comme boîte open source de
Ouais.
recherche,
Qui
non
a été
profit.
fermé ensuite.
Et puis après, ils sont devenus for profit, ils sont devenus capitalistes, mais en vendant un produit qu'ils ont créé en étant des purs chercheurs. Donc
Ouais.
là, il y a un problème un petit peu éthique quand même. Compliqué. C'est pour ça qu'ils se prennent, ça fait partie des procès qu'ils se prennent. Puis après, il y a le côté, que dit la loi de. Parce qu'en fait, les artistes, ils vivent des copyrights qu'ils vendent. Ils vendent des œuvres sur lesquelles ils ont des copyrights, etc. Enfin, c'est un des modèles économiques. Mais est-ce que, quand tu génères une image par IA, est-ce que c'est toi qui l'as générée? Est-ce que, toi, que dit la loi là-dessus?
Bah
Or,
oui, pour
ben, la
l'instant, il n'y a
loi
pas.
commence à s'exprimer. La loi s'écrit en ce moment. La loi américaine dit non. Si tu écris un prompt et une image, tu es juste commanditaire. Tu n'es pas créateur, donc tu peux pas copyrighter, tu peux pas déposer, tu vois, etc., etc. Et voilà. Et chaque région du monde est en train de créer des lois autour de ça. Et puis, je sais que le Japon, il a une approche complètement particulière, où il pense que d'ailleurs, on a le droit, si on voit des choses sur Internet, on a le droit de les utiliser comme base d'entraînement d'une IA, peu importe si elles appartiennent à quelqu'un ou pas,
Dans le
peu
sens,
importe.
tu l'as mis en ligne, donc tu
Voilà.
considères que c'est pour tout le monde, quoi.
Tu l'as trouvé, tu l'utilises. Voilà. Donc ça, ils sont un peu seuls au monde pour l'instant comme ça. Donc déjà, les législations dans le monde entier s'entendent pas. On va falloir
Bah, c'est
quand
ça, et
même qu'on
ensuite,
s'entende un
si un
peu.
film est fait dans tel pays où ils ont le
Bah
droit,
ouais,
enfin, que tu le
c'est ça.
regardes ici, est-ce que toi, tu te dis comment ça marche? C'est
C'est
trop,
compliqué.
c'est pas
Donc là,
compliqué.
on est vraiment clairement au début d'un truc qui a
Ouais.
des implications énormes dans tous les domaines. Voilà, c'est excitant au point de vue créativité, hein, ça c'est sûr, hein, comme tu dis, c'est chouette. Mais nous, et typiquement pour en revenir ils étaient des millions, ce documentaire-là, j'ai proposé effectivement aux producteurs de Sepia, ben voilà, il y a d'autres méthodes maintenant qui sont apparues, qui utilisent ces outils-là, qui sont problématiques pour telle ou telle raison. Est-ce que toi, en tant que producteur, parce que c'est lui qui a la responsabilité légale, est-ce que
Ah ouais.
tu acceptes qu'on les pratique? Et pour eux, c'est, bah non, en plus dans le monde du documentaire, si tu veux, c'est un monde éthique justement qui se veut ouvrir les chakras du monde
Oui, partager les connaissances et tout.
et
Ouais.
partager les connaissances et tout. Donc là, c'est un gros nom, et donc on va rester à faire des choses comme on le faisait il y a quelques années. C'est très bien.
Justement, sur le côté production, alors peut-être sur d'autres productions aussi, c'est quel genre de choses qui sont... Est-ce qu'il y a des choses qui sont créées en interne? Tu parlais peut-être de choses qui sont développées, etc. C'est quel genre de choses? C'est des ajouts sur des logiciels existants pour faire telle ou telle tâche? C'est des petits logiciels annexes pour faire un truc?
Ouais, alors il y a plusieurs couches. Il y a bien sûr le cœur du métier est quand même rempli de ce qu'on appelle du glueware, du software qui colle les choses ensemble. Et donc quelquefois c'est de nouvelles méthodes, de nouveaux procédés qui sont en fait avec des briques connues mais assemblées d'une manière différente. Donc typiquement c'était l'enjeu de l'arrivée des moteurs de jeux vidéo dans le monde de l'animation, des effets spéciaux, hein, Unreal Engine ou Unity. Nous, on utilise beaucoup Unity, entre autres parce qu'on est venu par la VR dedans, et que c'est Unity est plus fort dans ce domaine-là, mais VR en tant qu'outil de production. Donc typiquement, un des premiers outils qu'on avait fait, c'était un outil d'aide au storyboard en étant immergé en VR, en fait. C'est-à-dire, maintenant, ça a un nom d'ailleurs. À l'époque, on savait pas. On appelait ça du repérage virtuel. Et ben c'est ça en fait maintenant le nom officiel, bien sûr anglais, c'est le virtual scouting. C'est ça, c'est du repérage virtuel dans lequel on va, ben comme un réalisateur, vous voyez, qui se balade avec son petit œilleton, puis qui prend des cadres, qui se balade sur son plateau de cinéma. C'est un peu ça.
Donc
Et
ça veut dire qu'il y a
là,
des éléments déjà posés, et ensuite toi
ouais,
tu te balades à l'intérieur.
voire même on les pose soi-même, on les dispose, on change les choses, et on se balade. Et cela dit, ça c'est ce que font de toute façon Les storyboarders dans des productions 3D, typiquement, s'ils ont déjà un peu les assets, ils peuvent les manipuler en 3D, puis ils prennent des clichés, puis ils dessinent par-dessus. Ça existe déjà, en fait, ce procédé, mais sur écran. Ça existe depuis très longtemps sur écran. Et ce qu'on avait testé, nous, d'ailleurs, dans l'aventure où on était avant, qui nous a fait basculer vers, tiens, mais c'est super tout ce qui est en réel, c'était que juste transformer le fait de le faire en écran, sur écran plat, on va dire, transformer en expérience immersive. Mais tout le reste étant égal par ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'après, ça devient du. On continue à dessiner à plat, sur écran, on fait de la 3D classiquement. Et bien, juste ça, ce petit changement au début, ça fait gagner en qualité énormément les productions. Et du coup, en temps, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'erreurs qui sont plus à corriger, etc. Des erreurs de placement, de dimension, de proportion, de distance. Et on se rend même pas compte qu'on ne fait pas les erreurs. Juste qu'on a un rapport aux dimensions qui est meilleur quand on est immergé.
Ok,
Et
donc c'est plus
aux
ludique
distances.
aussi, j'imagine, c'est manipuler des choses et tout.
Peut-être,
Hein.
oui, c'est clair qu'il y a des manipulations qui sont plus rapides, hein, parce que bouger, ce que je fais à la main, là, bouger un truc, j'ai appris à le faire quand j'étais bébé, donc je le fais très vite. Par contre, le faire sur un écran, en jouant sur les trois axes, un écran plat, on faut penser enfin, c'est ça qui est compliqué aussi en 3D. On n'a que des interfaces plates, la souris, le stylet, l'écran, et on manipule la 3D. Donc c'est ce qu'on dit toujours, dessiner un truc en tire-bouchon, vous voyez mon geste à l'écran là, sculpter quelque chose en queue de tire-bouchon. Là, le geste que je viens de faire en VR, ça suffit pour le. C'est fini, c'est déjà sculpté.
Oui, parce
Il y a
qu'il y
des
aura
outils de
toute la notion de
sculpte,
distance et tout.
mais sur un écran, c'est beaucoup, beaucoup plus de clics et de. Faut tourner dans plusieurs sens. Ouais. C'est 2, 3, voire 10 fois plus long. Donc en fait, la VR ouais, peut aider beaucoup pour tout ce qui est manipulation, 3D, immersion. La 3D, enfin, l'exploitation de données 3D, on n'arrête pas d'en faire. Donc. Après, dès qu'il faut taper du texte, rentrer des. Bouger des paramètres fins, taper du code, snapper des choses, ça peut être plus compliqué. Mais on peut imaginer un monde dans lequel il y a un peu les deux, quoi.
Oui, voilà. Bah, c'est ça aussi, c'est toujours un mix des choses, comme la 3D est arrivée, la 2D est restée, des fois ça se mélange. Enfin, il y a tout un truc de une technique va pas supprimer
C'est-à-dire que,
l'autre.
tout à fait, quand la souris est arrivée, les écrans ont pas disparu, enfin, pardon, les claviers ont pas disparu. Donc c'est parce que chacun apporte un plus, et puis même des ajouts, ça se mélange, des raccourcis clavier sur un clic de souris, ça fait des choses. Donc voilà, faut pas avoir peur d'imaginer. Donc c'est beaucoup ce qu'on fait, on rajoute, on branche des choses ensemble différemment, on fait du pipeline dans lequel on peut échanger dans plein de sens, de plein de logiciels, des logiciels classiques, on va dire de la 3D qui sont Maya, ou maintenant Substance, ou qui viennent du jeu vidéo aussi, vers des moteurs de jeu et vice-versa, dans les deux sens. Et puis, on fait beaucoup ça. Et puis, il y a aussi de la recherche plus fondamentale, en fait. Enfin, peut-être un grand mot fondamental, parce qu'on fait pas, on fait quand même pas des particules, mais enfin, des particules.
On en
Voilà,
fait des fois, mais
tu
c'est
m'as
pas les mêmes,
compris.
quoi.
Ouais, c'est pas des particules d'effets spéciaux. Par exemple, on vient d'avoir une bonne nouvelle. Hein, encore une fois, c'est souvent sur base de financement, de subventions étatiques ou voire européennes. Cette année, on a participé à des tests d'outils créés par des chercheurs. C'est dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Invictus, sur lequel on avait un peu communiqué. C'est des outils justement d'animation en VR. Là, pour le coup, on est en VR, on anime. Et on a nous-mêmes, on était donc en prestation de service là-dessus et on testait. On a mis à disposition d'une part nos propres cas d'usage. On nous demandait, vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous chercheriez à faire? C'est quoi la liste des problématiques typiques que vous rencontrez? Donc, on a produit des choses, dont des problématiques de rig, parce qu'encore une fois, le rig, c'est la préparation de l'animation. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Des trucs qu'ils n'avaient pas trop anticipé, d'ailleurs. Donc, du coup, on leur a même fait des rigs et même des outils pour transférer du rig avec des contrôles le rig, c'est de quoi pour l'audience qui ne saurait pas, mais c'est de quoi faire bouger des personnages, un petit peu tout ce qui est, on va dire, les ficelles des marionnettes. En
C'est ça.
3D, c'est vraiment très proche du marionnettisme. Et donc, on pouvait le transférer vers des moteurs de jeu dans lesquels étaient développés leur propre outil de VR. Et puis, on a testé les choses. Et avec les mêmes laboratoires, en l'occurrence, c'est l'IRISA de Rennes, qui sont parmi les meilleurs, peut-être en Europe, dans le domaine. Et puis, Polytechnique, le laboratoire informatique de Polytechnique. Eux qui sont, ils sont, ils font tous de l'IA aussi. On a déposé un dossier. Là, on va se lancer à partir de la rentrée sur 3 ans et demi, 4 ans d'études d'outils d'aide à l'animation dite keyframe, c'est-à-dire l'animation image par image, l'animation qui peut être cartoon, non réaliste, etc. D'aide par IA pour animer de manière, pour modifier, si besoin, de manière naturelle, comme comment dire, on appelait ça animation conducteur, c'est-à-dire chef d'orchestre d'animation, un petit peu comme on le fait en vrai, en fait, dans la réalité, entre un superviseur d'animation qui voit une animation et qui la corrige. Alors, il peut rentrer dans le détail et dessiner, s'arrêter sur une image, redessiner une forme, redessiner une silhouette, donner des indications, dire, tiens, rajoute une image ici, enlève-en une là, ça peut être autant de détails là. Là, on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur, tiens, change plutôt le rythme de petits sursauts là, ça fait toc, 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 fais plutôt toc, 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 toc. Ou alors, au lieu de faire des pifs et des pafs comme ça, fais plutôt pif, pif, paf, paf, ou donc changer soit la variété, le rythme ou l'amplitude ou des choses comme ça, mais avec ce que je viens de faire, c'est-à-dire des gestes, du son et des choses comme ça. Donc c'est des sortes de manipulations de haut niveau, pas très claires, mais qu'un humain comprend. Donc s'il le comprend, est-ce qu'il n'y a pas des moyens par IA de faire le comprendre et de donner de nouveaux outils aux animateurs? C'est pour aider les animateurs, hein. Pour éviter certains clics de souris, etc.
Toujours en 3D là,
Donc
là-dessus.
c'est plus, ouais, ça sera sur un support 3D parce qu'il nous faut un support numérique dans lequel on a plein de données, justement, plein plein de données, et en 3D il y en a plein. Et voilà, donc ça pose plein de problématiques dès qu'on rentre dans le détail. C'est un enfer de problèmes, d'ambiguïté, etc. Donc il y a plein d'algorithmes possibles à étudier. Et donc là, tu vois, on développe des choses et c'est d'ailleurs Dada Animation qui va diriger cette recherche, mais pas au niveau scientifique, parce que là, je laisse les purs spécialistes régler ce problème scientifique. Donc on va le diriger du point de vue organisation, quoi. Mais voilà, donc ça fait aussi partie de mes prérogatives d'être dans le futur potentiel, développer des choses qui serviront peut-être un jour ou peut-être jamais, et puis des choses très concrètes aujourd'hui pour faire brancher des outils entre eux qui existent déjà, quoi.
Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a aussi sur le développement de notre application Calipeg, qui est donc de la 2D. Et donc il y a ce côté, à quel point on pourra mettre des choses qui aident à l'animation, mais en 2D, c'est peut-être des fois un peu plus compliqué parce qu'on est vraiment sur du tradit. Donc un des trucs envisagés, en gros, c'est d'acheter des technologies ou des choses comme ça qui permettraient de faire des textures qui peuvent s'interpoler, des trucs comme ça. Mais on sait que faire des intervalles en 2D tradit de façon automatique, pour l'instant, c'est un truc c'est trop compliqué, quoi, de comprendre
Ouais, c'est pas
ça.
si simple. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc on se dit, ce serait potentiellement sur d'autres choses, type coloriser, des choses comme ça, quoi. Mais on a tous ces trucs aussi en tête. Pareil, on
Ouais,
essaie de
d'ailleurs, ouais.
développer pour le futur de la 2D tradie améliorée, des choses comme ça, sans non plus rentrer dans un truc trop artificiel ou complètement pépette, etc. C'est pas évident.
Oui,
Faut
c'est
essayer de
pas le
trouver
même
les
métier.
trucs.
Ouais, mais d'ailleurs,
C'est
bravo, hein,
ça.
pour ce chouette outil. Hein, c'est du
Ah,
beau
merci.
boulot. Mais ouais, d'ailleurs, il est prévu, mais bon, on parle de ça dans 4 ans, et ça se trouve, ça aboutira pas. C'est ça la recherche, hein, c'est qu'on cherche, on n'est pas sûr de
Ouais,
trouver.
voilà.
Ça s'appelle pas trouver, ça s'appelle rechercher. On open sourcera tout, nos données, et puis les algorithmes qui sont bons, c'est la recherche. Voilà, donc il y aura, je sais pas si ce sera utile pour Calipeg ou d'autres choses, mais ce sera
Potentiellement.
open
Mais
sourcé.
c'est vrai que ça, c'est un des trucs
Jamais.
aussi. Enfin, j'imagine que dans les outils qui sont utilisés dans les productions du studio, il y a plein de choses aussi qui viennent justement de l'open source et tout,
Ouais.
qui permettent d'être comprises. Par tout le monde, pas par tout le monde, mais qui permettent d'être analysés en tout cas par ceux qui savent. Et
Tout à fait.
c'est un truc assez fou que ce soit possible maintenant, quoi. Enfin, depuis le début finalement d'Internet, il y a de l'open source dans tous les sens. C'est
Ouais,
un truc
c'est vrai
vraiment
qu'il
bien,
y a
quoi.
quand même une offensive, comme si c'était la guerre, mais il y a quand
Ouais.
même une montée en puissance de l'open source à plein de niveaux. Pour tout ce qui est web, c'est sûr, les technos web. Entre autres, pour des soucis de sécurité, hein. Quand c'est open source, au moins tu peux regarder dedans s'il y a des virus, etc. Ça n'empêche pas les trucs de marché. Pour tout ce qui est IT, cloud. Donc là, nous-mêmes, on développe beaucoup de choses. Et on va d'ailleurs proposer, alors là, pour le coup, là, c'est vraiment que Dada Animation, en open source bientôt, notre propre un peu moteur de gestion de fichiers, de D3D, de workflow, qui est un peu particulier. Une structure, on va dire, moderne, mais là, c'est pas moi qui en parlera le mieux. C'est notre autre cofondateur, Jonathan Giroux, qui est architecte logiciel, qui a bossé beaucoup chez Ubisoft, etc., mais qui développe tout ça. Et on open sourcera aussi cette partie-là. Mais ça, c'est vrai que ça va dans le sens de l'histoire. Maintenant, un des outils comme Blender,
Ouais.
L'outil 3D, il devient quand même de plus en plus utilisé.
C'est ça, et c'est ce qui m'a
Voilà.
permis aussi d'apprendre des bases de 3D assez jeune et tout, juste avec un logiciel très léger pris en 2 secondes sur un site. C'était incroyable, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, truc de fou.
Et puis il est puissant maintenant, il commence à faire des
Ah
choses, il y a
ouais,
de belles productions qui sont faites avec. Ouais.
c'est clair.
C'est chouette, c'est nouveau.
Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de plein de choses. Donc, je sais pas si t'as un dernier truc que tu voulais dire, peut-être un projet à évoquer qu'on n'a pas évoqué ou des choses autres.
Écoute, non, on a un projet assez fun qui s'appelle Pif Gadget là. Bon, c'est pareil, on est prestataire là-dessus, mais c'est Canal Plus a annoncé qu'on travaillait dessus au MIFA, et voilà, donc vous verrez passer du pif
Ok.
ici ou là. Donc pour d'ailleurs, c'est un ton assez sympa et qui parle de sauvegarder des environnements naturels, etc. C'est en collaboration avec des gens qui ont des banques de données, de belles images
Ouais.
dans des parcs naturels, etc. Et puis, ils risquent de réapparaître aussi dans d'autres endroits parce que c'est... Et c'est aussi ça la nouveauté. À la limite, c'est peut-être la dernière conclusion, c'est qu'en fait, la 3D, il n'y a pas que les technos et les procédés qui changent. Ou l'animation, je dis 3D ou 2D. Hein. D'ailleurs, maintenant, la 3D ressemble à beaucoup de projets qui ont des looks 2D. Hein. Les Tortues Ninja ou... Spider-Man ou Arkane, mais donc c'est la guerre est finie entre ces mondes-là.
Voilà, maintenant
Au
c'est plus le
contraire,
mélange, qu'est-ce qu'on va
ouais,
utiliser de l'un et de l'autre pour faire le meilleur
exactement.
truc, quoi.
C'est surtout les budgets qui décident en fait là, mais il y a aussi une explosion des usages en fait. Par exemple, ce fameux, j'en parle parce que ce fameux pif, il pourrait apparaître sur des mélangés avec des vidéos live qui ressembleraient à des hologrammes, je dis pas plus, mais dans des lieux, etc. On nous demande, on travaille beaucoup sur des exploitations. Maintenant, on nous demande souvent vu qu'on travaille avec des moteurs de jeu qui sont très bons pour faire de tout ce qui est réalité augmentée, jeux vidéo, applications, etc. En fait, quand on nous demande de travailler quand nous-mêmes on développe des IP, donc des univers, c'est aussi pour des usages et des exploitations dites 360 ou transmédia de
Ouais.
plus en plus, en fait. Voilà. Pour transférer des choses vers du vrai jeu vidéo, des trucs interactifs, de la VR, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de projets je pense, dont on va parler dans l'année qui vient de chez Dead Animation qui vont être un peu comme ça, avec plusieurs facettes. Et c'est chouette pour tous les gens qui travaillent, qui étudient dans ce milieu-là. Il faut savoir que maintenant, et je dis à la limite pour les plus jeunes, si j'ai un conseil à donner,
Ouais.
parce que je travaille beaucoup avec des écoles, et je prends, on a pris là des gens il n'y a pas longtemps en stage pour l'été, et puis on reprend ça pour toute l'année là. Et je sais qu'il y a une problématique de trouver des stages pour les étudiants.
Ouais.
Il y a, en fait, mathématiquement, pourtant il y a beaucoup d'entreprises en France. Mais il y a des limitations législatives sur le nombre de stagiaires, c'est très bien, comme ça fait pas des boîtes remplies de stagiaires. Mais on sait que mathématiquement, il y a aussi beaucoup d'écoles, on peut pas, il n'y a pas de la place pour tout le monde, en fait, dans les studios d'animation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a plein plein d'autres studios ou de sociétés de création, quelquefois c'est très étonnant même, les
Ouais.
sociétés, qui développent des choses, des expériences en VR, il y a beaucoup d'architectes qui ont besoin de gens qui savent faire de la 3D, voire même commencer à faire bouger des choses, etc., pour faire de la visualisation. Il y a des designers, pour reboucler sur le tout début. Et de plus en plus, et c'est les mêmes outils maintenant, ils utilisent Maya, au départ, dans l'automobile, j'ai plein de copains dans l'automobile, ils sont restés très très longtemps sur d'autres outils que Maya, par exemple. Et maintenant,
Ouais.
c'est plus le cas. Unreal Engine est partout, etc. Donc en fait, aux étudiants qui nous écouteraient et qui ont du mal à trouver des stages, par exemple, écoutez vos... Je sais que les dirigeants d'école, ils savent ça, ils savent qu'il y a plein d'autres entreprises, il y a plein d'autres... Mais c'est quelquefois pas très attirant pour les étudiants, mais en fait,
Oui, on se dit, je vais
c'est...
aller en studio d'anime alors qu'il y a
Voilà, ouais.
d'autres branches possibles.
En fait, il y a plein d'autres branches. Et puis la vie est longue, et on change souvent, on change très souvent en plus dans nos métiers. Et toute expérience est bonne à prendre, vraiment. Donc voilà, donc allez chercher ailleurs aussi. N'hésitez pas.
Bah écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci
Parfait.
beaucoup d'avoir partagé tout ça.
Merci à toi. Écoute, à bientôt.